Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, c'est en Syrie que nous allons nous rendre par l'intermédiaire de l'une de ces archéologues éminentes. Widad Khoury, bonjour.
Bonjour.
La liste de vos articles et publications est nombreuse, riche et variée. Pour expliquer en quelques mots le champ de vos recherches, j'ai essayé de trouver une zone où nous pouvons délimiter géographiquement l'étendue de votre savoir et surtout de vos travaux, ce qu'on appelle le plateau calcaire, avec les villes mortes de Syrie du Nord, Syrie du Nord-Ouest. Alors, vous êtes archéologue maintenant, mais vous avez eu une formation d'architecte, vous êtes né à Damas déjà, faudrait-il le préciser, vous avez travaillé pour la Fondation Aga Khan, vous avez étudié l'histoire de l'art en Italie et vous avez exercé des fonctions auprès de plusieurs missions archéologiques en Syrie. Alors, cette rencontre, pour commencer, avec les villes mortes du plateau calcaire, est-ce que vous pouvez nous évoquer une anecdote, quand ça s'est passé ?
À Damas, en 1976, là où par hasard on a rencontré des moines. J'étais à l'école polytechnique préparant mon diplôme d'architecture. On a rencontré par hasard des prêtres, un moine, qui est venu à la maison et qui m'en a parlé. Il m'a montré une photo. Le surlendemain, j'ai su que tout était dit. Et je suis partie là-dessus. C'est les moines franciscains Peña, Castellana et Fernandez avec lesquels j'ai travaillé les premières décennies de mon travail.
En 1976, à Damas, vous prenez la route pour le nord de la Syrie.
Ouais.
Dans quelles conditions ?
J'étais heureuse, je veux dire. Il n'y avait aucune réflexion rationnelle. Mais quand j'ai vu les photos que le père Ignace, qui était venu par hasard, je veux dire, et je savais que je voulais voir ça et que c'était ce que je voulais faire.
Et vous êtes arrivé dans cette province, une province ecclésiastique. Alors on va revenir sur la période bien sûr historique. Dans quel état était-elle ? Il y avait des indications, il y avait des routes, des sentiers pour trouver ces églises ou pas ?
Probablement il y en avait beaucoup moins qu'on a ajouté plus tard. Mais le fait que le père Ignace connaissait comme sa poche, ce sont des moines qui ont vécu des décennies en Syrie et qui ont eu le temps d'apprendre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu de soucis pour le moment à cause de mon maître là, du moment.
Et ce père a été votre guide aussi ?
Tout à fait, c'est lui qui m'a amené.
Et votre vocation archéologique est véritablement née de cette rencontre ?
Oui, c'était pas très difficile, je veux dire, la beauté et le côté, cette architecture s'imposait et je suis architecte de formation, donc c'était trop rapide peut-être. En tout cas, voilà, on a vu le premier site et toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je travaille sur ça.
Alors c'est une vie consacrée à ces pierres, pardonnez-moi la familiarité, mais il s'agit plus que de pierres bien entendu, il s'agit d'églises bâties et très nombreuses.
Tout à fait.
Alors resituez-nous un petit peu dans l'histoire ces villes mortes du nord-ouest de la Syrie.
Ben, c'est une histoire qui est aussi simple que fascinante puisque c'est avec la paix de Constantin au début du IVe siècle, que l'empereur lui-même commence la construction des églises partout, depuis Jérusalem jusqu'à Constantinople, jusqu'à Rome. Et dans en ce moment-là, le massif calcaire commence à être couvert d'églises en faveur de la pierre calcaire qui est et en faveur de son éloignement des grandes routes et du fait que la présence d'une main-d'œuvre tout à fait disponible, puisque les agriculteurs pouvaient aussi répartir leur travail, c'était un travail saisonnier. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que c'est l'endroit qui a préservé jusqu'à notre siècle le plus grand nombre de monuments. Il y a des endroits qui étaient occupés tardivement et dont on ne sait pas comment ça se présentait. En fait, on peut deviner, mais je veux dire, le massif nous a livré, dès que j'étais là dans les années 70, il nous a livré des milliers d'églises. Donc c'est vrai que ce n'était pas difficile d'avoir beaucoup de choses à faire là-bas.
Vous avez bien dit des milliers d'églises.
Bien sûr.
Qui sont toutes répertoriées, qui sont...
Non, j'ai essayé dans le cadre d'un projet de la Direction des Antiquités et des Musées. On a répertorié les sites et on a répertorié la qualité, en fait non, pas la qualité, le degré de préservation. On a catégorisé ces villes en plusieurs degrés de préservation, entre entièrement préservées, moyennement 5 qualités, dans lesquelles la cinquième, là où il n'y a plus rien sauf le nom, du site et éventuellement un bloc antique. Et c'était là le projet qu'on avait présenté au nom, bien sûr, que la Direction Générale des Antiquités et des Musées de Damas, où je travaillais, avons présenté à l'UNESCO pour un projet de protection de ce patrimoine.
Et qui a abouti, il y a eu des discussions.
Oui, il a abouti, bien sûr, et puis, bien sûr, il s'est arrêté.
Voilà,
il s'est arrêté abruptement. On n'a pas répertorié chaque monument, mais l'ensemble était déjà bien cerné.
Alors nous sommes donc au nord-ouest de la Syrie, nous sommes à l'ouest d'Alep. Il y a un très bel ensemble que les gens peut-être connaissent plus aisément, qui est le monastère de Saint-Simon. Alors Saint-Simon, le stylite,
ouais.
Si je ne me trompe pas. Quel est le lien entre ces deux ensembles?
Saint-Siméon est un monument extraordinaire, qui fait quand même partie de cet ensemble, mais il arrive au milieu, il arrive au 5e siècle, au milieu du 5e siècle. Le 1er siècle a connu les expériences des églises qui étaient construites comme des basiliques, comme la tradition de la construction était déjà courante, avec un aspect qui s'est très très vite homogénéisé. On pourrait dire à peu près qu'elles sont nées homogénéisées en basilique à trois nefs avec un sanctuaire tripartite, je veux dire.
Ce plan classique que l'on retrouve après de manière régulière.
À peu près, mais on l'appelle classique. En fait, il s'invente comme ça. Il commence comme ça. Et le mot s'invente n'est pas d'une précision scientifique. Mais en fait, on observe une permanence de ce modèle. Et puis, il y a eu des tendances locales, des architectes locaux qui ont participé à typer le décor, à amener des petites nuances ou des petites variantes au niveau de la disposition des lieux. Mais le grand monastère de Saint-Siméon, qu'on appelle Qalat Sema'an, est une expérience extraordinaire parce que c'est aussi une initiative impériale. Initié par l'empereur Léon, et puis donc ce monastère qui se veut un martyrium, un lieu de culte pour Saint-Siméon, qui est construit autour de la base de sa dernière colonne. Donc un grand lieu de culte, et puis il fallait de grands ateliers, il fallait des inspirations, et il fallait aussi mettre ce qu'il y avait de mieux pour cet sanctuaire impérial. Donc ce monument associe les données locales, des données de décor local, avec des innovations inspirées du monde environnant.
Alors vous étudiez le bâti, bien entendu, qui vous intéresse par votre formation et par votre vocation. Mais que savons-nous, par exemple, de la vie de ce saint? Est-ce qu'il existe des chroniques?
Oui.
Siméon le stylite, donc il vivait au sommet d'une colonne?
Oui, il y a de bonnes chroniques. D'ailleurs, on sait à peu près tout de sa petite vie de berger qui est descendu de Cilicie et qui a trouvé sa vocation dans un endroit proche, toujours dans le massif, qui s'appelle Tel Adda, et il a fait son premier essai monastique. C'était pas vraiment ce qu'il préférait. Il a commencé à performer seul dans son ascétisme, et puis finalement il a choisi une première, une deuxième, et finalement il a passé 40 ans de sa vie ou quelque chose comme ça sur une colonne.
Il est devenu très populaire de son vivant.
Très populaire.
Sanctifié très vite après sa mort, je crois.
Très vite, très très vite. Sa réputation avait atteint un peu partout. Et c'est quelque part, il y a eu une espèce d'identification, une forme d'identification de local avec lui, apparemment, mais aussi d'après les chroniques, on est venu, les Ibères sont venus se convertir auprès de lui, beaucoup de peuples venaient, enfin, selon les chroniques, on appelle ça les peuples, mais probablement, ils ne venaient pas de derrière les continents, de derrière les océans, mais probablement de très loin, on venait pour se convertir en masse ou bien pour le visiter.
Et pour terminer là-dessus, je crois même que cette forme de spiritualité très singulière, donc vivre au sommet d'une colonne, a essaimé dans certaines, dans d'autres régions du Proche et Moyen-Orient.
Oui, d'abord, lui-même, déjà, il a beaucoup parlé. Il s'est fâché après les mécréants, mais aussi, il a parlé beaucoup, il a envoyé des messages aux empereurs, aux saintes personnes dont il savait qu'elles existaient. Donc lui-même était très actif. Mais aussi le mouvement, bien sûr, a été atteint à tout le monde, puisqu'il y a un autre stylite sur les côtés du Bosphore, le stylite Daniel, qui a parlé de lui aux empereurs et à l'empereur, qui lui, donc a décidé
proche de
lui
capitale,
offrir.
À Constantinople.
Mais l'autre avait un autre type de vie, puisque Saint-Siméon était statique, il ne bougeait pas. On lui envoyait la nourriture par un panier. Or, Daniel pouvait se déplacer et il avait donc parlé de lui à l'empereur, qui a donc initié ce grand projet et qui a été complété par Zénon entre 470 et 490.
Nous sommes ce matin en compagnie de Widad Khoury pour évoquer les villes mortes du nord de la Syrie, donc après ce passage par Kalat Seman, Saint-Siméon le stylite. Revenons un petit peu sur ces villes mortes. Alors on évoquait un nombre d'églises impressionnants, une architecture très particulière. Nous sommes un peu en altitude, je crois.
Oui, c'est une altitude qui varie entre les plus basses en plaine, elles sont à quelques 200 mètres, les plus élevées sont à environ 600.
Et il faut préciser pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas visuellement ces endroits, qu'il y a des façades et il y a des églises qui sont pratiquement
tout à fait
dans un état de conservation extraordinaire.
Tout à fait. Quelques-unes parmi ces églises, plusieurs, je veux dire, dans mon recensement des années 80, on avait 200 églises qui tenaient debout avec les façades. Des fois, il y a une ou deux façades, mais elles sont tellement parlantes et le plan est préservé avec fenêtres, avec claire-voie, avec des fois le pignon. Il manquait, dans un cas comme l'église de Mouchabak, il manquait uniquement la toiture.
On remet le toit et nous
seulement,
sommes à la fin du 5e siècle.
Au 6e, celle dont je parle est date du 6e, mais Kalat Seman, qui a été relativement très bien préservée, aussi elle date du 5e.
Alors nous reviendrons un petit peu sur la fin de ces villes mortes, parce qu'elles ont été, abandonnées pratiquement du jour au lendemain dans mon souvenir de lecture. Dites-nous un peu plus sur les populations qui habitaient là. Vous avez travaillé sur des inscriptions aussi. En quelle langue sont-elles?
La langue majeure, c'est la langue grecque, les inscriptions en grec, mais ça ne dit pas de la majorité de la population, puisque les inscriptions il y a des professionnels qui les font, et puisque de toute façon ce massif calcaire et suivait le patriarcat d'Antioche, donc les tendances d'Antioche étaient de mise, et aussi c'est clair que les inscriptions étaient connues, je veux dire c'est le clergé qui donnait les inscriptions, qui montrait aux artisans qu'est-ce qu'il fallait graver, d'où d'ailleurs plein d'erreurs d'orthographe dans l'écriture de ces inscriptions.
Parce qu'ils écrivaient sans forcément comprendre ce qu'ils traçaient.
Dans plusieurs cas, il paraît qu'on doit le penser comme ça.
Et des inscriptions en syriaque, peut-être ?
Bien sûr, il y a des inscriptions syriaques. Et puis là, elles reflètent aussi une partie de la population. Mais actuellement, la majorité est en grec. Les inscriptions syriaques sont moins aussi, les celles monumentales sont moins nombreuses, mais elles existent et elles montrent aussi le mélange et la tendance qui était dans la région. Donc l'esprit des habitants de la région qui apparemment leur langue est étaient parlés en syriaque et qui devenaient de plus en plus nombreux. Et puis, ce qui est remarquable, c'est que dans le groupe des inscriptions syriaques, il y a beaucoup de graffitis personnels. Et ça, c'est très touchant. Et ce qui n'est pas le cas dans les inscriptions grecques, qui sont surtout les inscriptions qui illustrent les donations.
Vous avez parlé de paysans tout à l'heure, de maçons, de moines. Alors, on a une idée du rôle économique de ces populations, de comment pouvait-il...
Je pense, il y a M. Tchalenko qui avait fait une très belle étude où il a pour la première fois révélé clairement le rôle de ces milieux dans la société. Selon lui même, l'introduction des monastères a ajouté une certaine organisation à ce travail, puisque déjà avant le christianisme, avant le IVe siècle, le massif a connu une occupation beaucoup moins intensive, mais de l'époque romaine. D'ailleurs, dans les fouilles, on a vu aussi des traces d'occupation de l'époque hellénistique. Mais là, on n'a pas de construction, on a seulement de la culture matérielle. Mais à l'époque romaine, on a des vestiges, des villas entières préservées de l'époque romaine. Et là, on sait qu'il y avait un propriétaire, qu'il y avait un lot de terrain. Et puis, avec la construction des églises, et au IVe siècle, les églises apparaissent. Et puis, il y a tout un moment avec la paix de l'église, voilà. Il y a le massif reçoit une population plus importante. Ils sont agriculteurs, mais aussi dans les saisons où il n'y a pas de travail, ils sont de très bons tailleurs de pierre. La pierre, le calcaire là-bas est aussi bon, presque comme le marbre, je veux dire.
Très dur.
Il se taille magnifiquement bien. Il est blanc, il est pur. Et comme ça, il y a eu la naissance de ces milieux, les agriculteurs. Il y a le monde des moines et voilà qui ont travaillé harmonieusement apparemment ensemble.
Est-ce qu'on sait comment ça s'appelle les villes mortes, hein, ne l'oublions pas, comment ces villes se sont éteintes?
Oui, pour vous dire par la fin, elles se sont éteintes à part les villages, parce qu'en fait ce sont des villages, des villes et des villages. Et elles se sont éteintes d'abord certainement assez vite au VIe siècle, celles qui étaient vers le bas, puisque quand nous parlons du massif calcaire ou du plateau calcaire, nous parlons d'un ensemble de collines et qui sont unifiées par un ensemble de plaines. Donc c'est clair que les villages de la plaine ont été abandonnés un peu avant à cause de celles qui sont proches des grandes routes. Plus tard, il y a eu un abandon successif, un peu plus massif à certains moments, à d'autres moins.
Pour des raisons économiques, peut-être?
Voilà. Pour résumer, le changement politique, avec la conquête arabe, aussi avait amené un profond changement de comportement économique, social et autres. Et l'ouverture vers le nord a cédé la place jusqu'à une ouverture vers le sud, vers la Palestine, la Jordanie, l'Égypte. Donc il y a toute une nouvelle structure, une nouvelle économie. Donc il y a des marchés économiques qui se sont arrêtés.
De nouvelles routes commerciales se sont ouvertes.
Elles y étaient déjà, mais elles sont devenues prioritaires.
Widad Khoury, est-ce que vous avez une idée de l'état actuel de ces monuments?
Ouais, hélas, malheureusement, beaucoup parmi ces monuments ont souffert beaucoup. Quelques-uns ont été détruits expressément, parmi eux de très beaux, et puis d'autres ont été pillés. Je veux dire, malheureusement, on ne sait pas. On a des informations qui arrivent ponctuelles. Donc, quelqu'un informe la direction ou un ancien gardien informe le fouilleur par message que tel monument a été détruit expressément. Mais en fait, l'ensemble, je n'ai pas de vision d'ensemble. Mais malheureusement, elles ont beaucoup, beaucoup souffert pendant ces événements.
Alors nous savons effectivement la situation en Syrie, on ne va pas parler que du patrimoine chrétien, bien entendu ce serait aberrant dans le contexte actuel, mais vous souffrez pour ce patrimoine. Est-ce que vous avez des exemples peut-être plus singuliers d'endroits où il y a eu une destruction organisée ou pas, ou des pillages ou,
C'est clair, actuellement nous parlons de ce patrimoine en chrétien ancien. Eh bien, déjà, on avait, dans les villes mortes, on a fait exploser l'église de Sheikh Sleiman. Celle-là, c'était en démonstration qui a été filmée, qui a été diffusée, je veux dire. Aussi, on a fait exploser le Arouih à Deir Sumbul, le couvent de Deir Sumbul. Et puis, tout ça, c'est, je veux dire, ça se diffuse à cause des petites vidéos, je ne sais pas comment, mais bref. Et comme ça, on a l'information, on a du pillage. Aussi, les panneaux de mosaïque sont connus, sont signalés. Il y a toujours un ouvrier qui signale ça. Et puis, Qalat Seman a souffert un peu.
Oui, mais, donc Saint-Siméon.
Un peu. Il a souffert, oui. Mais pas ruiné. Jusqu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, elle n'est pas ruinée. Mais aussi, rappelons le pillage de Maaloula, qui a eu lieu au nord de Damas. Je veux dire, Maaloula, un village habité dont les habitants chrétiens et non chrétiens parlaient l'araméen. Et toutes les églises ont été pillées et détruites.
Wydad Khoury, merci beaucoup pour être venu jusqu'à notre émission ce dimanche matin.
Merci à vous.
Je remercie pour la réalisation de cette émission Dany Journeau et Marie Le Peintre, et nous accueillons Claire Poinsignon, voilà, qui rejoint notre équipe. Restez sur France Culture, nous retrouvons maintenant le service protestant avec Olivier Betty.